Bon.
On va y aller. Hein.
On va y aller.
Répétition, inconscient, moi, culpabilité, lapsus,
désir, psychose, phobie, sexualité,
complexe, lapsus, culpabilité,
moi, culpabilité, complexe,
moi, inconscient, lapsus, répétition,
sexualité,
complexe, désir,
psychose, psychose, phobie, culpabilité,
désir, moi,
répétition,
inconscient, sexualité, complexe,
culpabilité,
lapsus, culpabilité,
lapsus,
moi,
sexualité,
répétition,
psychose,
phobie,
sexualité,
lapsus, culpabilité, moi, inconscient, répétition. Ah, je vais dans l'autre sens ?
Oui.
D'accord, ok.
MDL, les mots délivrés des livres. Pour écouter autrement.
Sans faire trop sérieux non plus.
Faut quand même être un peu sérieux des fois.
Ok.
Sur la trace des mots.
Sur les chemins de notre intériorité.
Une ouverture éclair.
Sur des livres qui se livrent.
Mais qui se lisent aussi.
Olivier Lostis de l'Esperluette.
Gabriel Seban, qu'on espère net. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel.
Bon, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est accroché dans ton filet, c'est la vérité. La vérité qui passe par l'autre.
Oui, l'autre en tout cas. L'autre, la vérité, je ne sais pas, mais l'autre. En tout cas, Sartre disait effectivement, pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. Alors, dans La vie automatique de Christian Auster, aux éditions de l'Olivier, le personnage central n'a plus beaucoup de travail. Il est acteur, avec peu d'engagement, sa femme l'a quitté, et il va laisser sa maison brûler sans réagir. Il est presque vide, vierge, il ne lui reste rien, ou presque. D'une certaine façon, il est une enveloppe vide, mais aussi, au fond, une nuée de possibilités. Outre que le livre est très humoristique et décalé, on trouve finalement là une situation assez connue. Comme celle d'un enfant, par exemple, ou plus évidemment celle d'une renaissance possible, ou d'une disparition, comme on voudra. C'est la mise en scène d'une sorte d'initiation, en tout cas, comme on dirait aujourd'hui en informatique, peut-être une réinitialisation. C'est ce qui va arriver à la suite de rencontres qu'il va faire, où il va se laisser porter par ce que les autres lui proposent. Un voyage inattendu et surréaliste au Japon, des rôles sur scène, mais plus encore des rôles qui vont lui être confiés dans la vie. Et il va tous les accepter. C'est pas comme ça dans nos vies en général, où on va souvent résister à ce que l'autre nous demande d'être. Nous pensons menacer dans notre être profond, notre identité. Mais au fond, cette identité n'est-elle pas que l'invention que les autres nous ont progressivement proposée, ou plutôt les inventions? Que ferions-nous de nous-mêmes sans les regards que les autres posent sur nous et nous renvoient? N'attendons-nous pas le plus souvent que les autres parlent de nous? Nous sommes, et nous le revendiquons souvent, acteurs de nous-mêmes. Mais écrivons-nous le scénario. Ainsi, dans L'installation de la peur de Ruiz Inc., aux éditions Agulot, deux hommes sont chargés par le gouvernement d'installer la peur chez les gens. Par tout un tas de discours inquiétants, de menaces plus ou moins voilées, ils se rendent chez une femme à cette fin. À écouter ce qu'ils disent, ce que le gouvernement semble capable de faire, nous sommes dans un univers bizarre, menaçant, un peu kafkaïen. Il y a de quoi prendre peur, en effet, comme on peut avoir peur de tout univers totalitaire. Univers qui nous fait être un objet pour ceux qui peuvent décider de tout pour nous. Il semble, ces hommes, pouvoir écrire notre avenir, décider du scénario et du rôle qui est le nôtre. Pourtant, cette femme écoute à peine. D'une oreille seulement. Ils ne lui font manifestement pas peur. Son obsession, sa peur, parce qu'elle en a bien une, et qu'il n'entre pas dans la salle de bain. Elle est prête à tout pour ça. Elle y cache quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et pour le protéger, c'est à son tour elle qui va être inquiétante. Par un renversement à la fois comique et angoissant, c'est tout à coup elle qui va devenir cet autre qui menace. C'est-à-dire que si l'autre, l'étranger, est investi d'un pouvoir réel ou fantasmé, il est clair que moi, je suis aussi l'autre. Je peux aussi menacer. Je peux aussi avoir un pouvoir réel ou fantasmé. L'autre, c'est un peu comme moi. Moi, je suis un peu comme l'autre. Mais comme en même temps, j'ignore ce qu'il a en tête, c'est bien souvent ce que j'ai en tête que je vais lui attribuer. Ce sont mes pensées, mon pouvoir, la menace que je peux représenter que je vais lui attribuer, dans le doute que j'ai de ce qu'il pense. Ainsi, par exemple, le jaloux qui est celui qui a des pensées d'ailleurs. Ou cette femme qui a sans doute peur, en effet. Mais de ce qu'elle a en tête et qu'elle veut cacher bien plus que de ce que racontent ces hommes. Ce qui nous fait le plus peur est ce que nous avons déjà en tête. C'est souvent ce qui marche en politique, par exemple. Cette circonstance aujourd'hui. Agiter des peurs qui ne sont pas si concrètes que ça, mais qui vont réveiller celles que nous avons en nous. L'autre est en nous. Heureusement, l'autre peut être pacifique aussi. Ainsi, dans « Continuer » de Laurent Mauvignier, aux éditions de Minuit, on va suivre une mère et son fils dans une aventure réaliste, mais hors du commun. Elle estime avoir raté sa vie et elle pense que son fils est en train de prendre une très très mauvaise pente. Contre tous, elle va lui proposer une randonnée équestre au long cours au Kirghizistan. Ce sera le début d'une épopée aux péripéties très romanesques. Alors bien sûr, le livre raconte aussi l'histoire que nous connaissons bien de la difficulté à échanger entre un parent et un adolescent. La profondeur des sentiments malgré tout, et l'épreuve qui révèle tout ça. Là aussi, donc, il y a une renaissance initiatique, même deux. Celle de l'adolescent qui va s'ouvrir à la vie, cessant son bouillonnement intérieur en circuit fermé, et celle d'une femme qui risquera tout pour son fils et rencontrera aussi celle qu'elle aurait pu devenir, celle qu'elle deviendra peut-être. Mais pour ça, il faut pour chacun qu'il y ait un autre étranger qui nous amène à nous-mêmes. Je viens de lire une citation de Kafka que je vais essayer de restituer à peu près exactement, où il disait qu'il avait au fond peu de points communs avec lui-même, parce que c'est peut-être aussi avec les autres que nous avons des points communs, et avec les autres seulement.
Alors, trois axes, effectivement, dans ces trois livres qui sont très appétissants. Le rôle de l'autre face au vide de soi, ou que l'on peut ressentir en soi, ça c'est le premier. Le deuxième, l'autre que je suis et qui peut faire peur aussi. Et puis le troisième, c'est l'autre qui s'impose à nous. Et pas forcément dans le côté agressif, mais peut-être dans une bienveillance qui peut mal tourner. Alors moi, ça me suggère une question, Olivier. Quelle est cette peur de se perdre, sans cette reconnaissance d'autrui, sans ce sens de l'autre, sommes-nous tous des barbares potentiels?
Oui, sûrement. Barbare, c'est l'étranger de l'origine, c'est d'abord celui qui parle une autre langue. Donc il a d'autres comportements, on ne comprend rien en fait aux barbares, c'est d'abord ça. Alors comme on ne comprend rien, il est vécu comme destructeur. Ce qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à l'assimiler. Ça éclaire un peu ce que veut dire connaître aussi à l'inverse, c'est-à-dire naître ensemble, faire de l'autre un autre, mais qui est aussi un autre en moi. C'est-à-dire que j'intègre, que j'accepte, dont j'accepte les valeurs, quand bien même elles seraient différentes des miennes, et dès lors qu'elles sont à peu près compatibles. Mais si on ne fait pas ça, finalement, on est conduit à la guerre qui, vise simplement à détruire cette étrangeté, ce monstre, c'est-à-dire ce qui se montre. Un monstre, c'est d'abord ça, ce qui se montre, ce qui est monstrueux et ce qui donc me menace. Me menace d'autant plus que c'est la menace potentielle que je vais lui adresser qui me revient au fond, parce qu'on n'en sait strictement rien de ce que ce barbare voudrait.
Étouffant. Étouffant, il faut absolument se libérer du sens.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là. Elle est juste à l'intérieur de cette parenthèse. De cette parenthèse. Un truc là qui claque, un truc là qui claque. De. Vous inquiétez pas, ça repart.
Jonathan se coucha à même le sol au sommet de la colline et regarda le ciel jusqu'à devenir aussi léger qu'un stratus. Il abandonna toute résistance pour se laisser traverser par les forces telluriques qu'il sentait là. Le temps n'exista plus, jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent sur un espace qu'il reconnut enfin. Telle une marée montante, la vie remplit de nouveau son enveloppe charnelle, l'obligeant à réincarner son intériorité qu'il avait apprivoisée ces 30 dernières années. Il se savait banal, mais il était pourvu d'un don surprenant. Guérir les douleurs des gens par un flux inconnu transitant par ses mains. Atteindre quelque vérité que ce soit, notamment de l'autre, n'était pourtant ni son but, ni sa volonté. Le lent déplacement des paumes à quelques centimètres du patient allongé lui permettait d'aspirer magnétiquement son mal. Il avait découvert cette étrange capacité au moment où Toinette souffrait du dos. Par compassion, sans oser la caresser, il mima de lui retirer la douleur et le résultat fut surprenant. Depuis quelque temps, sa lassitude s'était faite bien réelle. Elle laissait place au désespoir. À force d'entrer dans ces tunnels d'aspiration du mal des autres, il finissait par ressentir toutes les douleurs du monde. Son corps en était aussi endolori que son esprit. Ses ressourcements habituels au sommet de la colline lui laissaient l'impression qu'il s'imprégnait des maux qu'il retirait chez les autres sans pouvoir les évacuer. Il passait alors ses propres mains au-dessus de son corps, mais le mal qu'il ôtait retrouvait alors le chemin du corps de celui à qui il l'avait précédemment enlevé. Une impasse de compassion, où il décida de s'oublier totalement devant l'autre. Multipliant ses interventions à la limite de ses capacités, s'est détaché de lui-même qu'il réalisa à sa mort que nous étions tous pétris des mêmes souffrances et qu'il était vain d'en rendre responsables les autres.
When I was younger, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. I got a new girlfriend. He feels like he's on top. The flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. I got a little paycheck. You got big plans, and you gotta move. And I
Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood.